Alors, il est 6 heures, nous sommes jeudi. C'est une autre journée extrêmement chaude qui s'amorce. Jeudi 28 mai, c'est la troisième journée de cette canicule. Il y en a une autre demain, un peu moins chaud, mais tout aussi humide. Alors, en résumé pour aujourd'hui, alternance de soleil et de nuages, comme dans toute journée très chaude. Des vents de 20 à 40 km/h, le maximum, je le disais, 31. L'humidex est à 36 pour aujourd'hui. Ce soir, ce sera nuageux, des averses en fin de soirée, potentiel d'orage même durant la nuit, avec un minimum de 21. Vendredi, ce sera couvert, des averses, en tout cas la possibilité est là à 40 %, même peut-être un orage en après-midi, maximum autour de 29, l'humidex 37 pour demain. Et puis finalement, dans la nuit, on aura de la pluie de vendredi à samedi. Températures vont baisser, ce qui fait que samedi, on prévoit du temps couvert, de la pluie, et un maximum de 18 degrés. C'est quand même assez spectaculaire là, comme baisse en si peu de temps. Et dimanche, c'est du soleil avec un maximum prévu de 17 degrés. Beaucoup de choses. Je vais commencer ce matin par le dossier des CHSLD parce qu'il y a quelques éléments. D'abord, M. Legault a demandé hier aux Forces armées canadiennes de demeurer en poste dans les centres au moins jusqu'à la fin de l'été. Là. Idéalement, il veut que les soldats soient là jusqu'au 15 septembre. Réponse du fédéral, ça ne sera pas possible. Parce que les soldats qui sont ici sont déployés 7 jours sur 7, sont fatigués. Et là, j'entends déjà les gens dans le réseau dire « Nous autres aussi, on est fatigués, puis nous autres aussi, on a hâte de savoir à quel moment on aura nos vacances, malgré le discours officiel. » Ce n'est pas clair dans tous les établissements. Fin de la parenthèse. Et que peut-être, après le retrait le 21 juin, il y aura quelques soldats qui pourraient demeurer, mais la mission sera, pour ainsi dire, terminée. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est cette opération, là, ça nous rappelait le film hier, là, La Grande Séduction, en disant « Venez, on ne sait plus comment vous le dire, on a besoin de 10 000 personnes à qui on va donner une formation pour les 3 prochains mois, on va vous payer pendant la formation, puis vous allez avoir un bon salaire, tout de suite après, vous allez pouvoir commencer à travailler. » Parce que le défi, c'est le défi du personnel dans la perspective d'une deuxième vague. Alors, est-ce que ça va marcher? Parce qu'il n'y a pas juste le salaire, c'est sûr, là. Mais plus il y a de gens qui travaillent, moins il y a de postes non comblés, moins la charge, en principe, est lourde, bien, ça devrait créer un environnement un peu plus intéressant. C'est le pari du gouvernement. Est-ce que ça va fonctionner? On sait que le taux de chômage est élevé, mais l'image qu'on a fait des CHSLD, pas tous, là. Il y en a qui ça fonctionne quand même bien. Mais les endroits où il y a eu du personnel de contaminés, des gens qui ont quitté, c'est sûr que c'est pas nécessairement hyper tentant là, d'aller suivre la formation et de devenir. Mais il y en a peut-être qui vont se dire ben c'est un bon emploi, puis les conditions s'améliorent quand même. Alors, ça, c'est le défi du gouvernement. Troisième élément ce matin, les fameux climatiseurs. Hier, j'écoutais le point de presse, là. M'excuse, mais j'achète pas l'argumentaire qu'on nous a présenté en disant « Mais là, on ne savait pas si on pouvait faire fonctionner les climatiseurs. On n'a pas d'avis de la santé publique. Dans le cadre de la COVID, est-ce que ça aurait été néfaste? Finalement, on a su qu'il y a quelques jours que c'était permis. » Il n'y a rien qui empêche d'installer des climatiseurs. Tu n'es pas obligé de les partir. Tu ne pars pas le chauffage s'il ne fait pas froid un peu. Il n'y a pas une date. Là. Personne ne te dit c'est telle date qu'il faut que tu... Alors, c'était quoi le problème de procéder aux installations? Je comprends que dans les centres où il y avait contamination, c'était peut-être un peu plus compliqué. Mais dans les endroits où il n'y en avait pas ou peu, alors, je pense qu'ils l'ont échappé. Et je pense que c'était prévisible. On pouvait planifier ça. Hier, au point de presse, on citait quelqu'un de l'entourage de la ministre qui a dit « De toute façon, le monde va chialer. » Legault a dit que c'était pas acceptable, avec raison. Mais, tu sais, dans la machine comme ça, là, où tu es loin de ce qui se passe sur le terrain, tu as ce type de réflexion pas particulièrement brillante. Alors, je pense que oui, on aurait très bien pu les installer puis les partir. L'autre chose, quand Mme McCann dit « Je vous garantis que la climatisation va être optimale. » Optimale, ça veut dire on va être capable de climatiser une partie du réseau. une partie des chambres, une partie des établissements, c'est à peu près 20 % actuellement où on a de la climatisation. Et puis ce matin, Radio-Canada nous dit qu'il y a 8000 personnes âgées qui vivent dans des endroits vétustes en totalité ou en partie là, dans des CHSLD. Il n'y a aucune annonce de rénovation ou de reconstruction qui n'a été faite depuis le mois d'août 2019. Il y a eu le projet de la Maison des aînés, là, les Maisons des aînés. Au Québec, il y a 101 bâtiments qui sont en mauvais ou très mauvais état et qui nécessitent des travaux urgents, selon le ministère de la Santé et des services sociaux. Et il y en a beaucoup, là, ce qui donne 8000 résidents, principalement concentrés dans la région de Montréal. Puis je vous rappelle que c'est dans la région de Montréal aussi qu'on a eu le plus de cas d'éclosion et malheureusement de décès dans ces établissements. Et puis la campagne que lance M. Legault, là, vous voyez les centres privés réagir. Ils disent, attends un peu, là, si tu commences à payer ton monde à ce prix-là, là, comment on va faire avec nos employés qui ne sont pas payés? Bon, payer moins cher, déjà, que ceux du réseau. Et là, ça amène toute la question, est-ce que ça doit devenir 100 % public? Est-ce qu'on doit fixer les normes à l'intérieur de ces établissements? Est-ce que Québec va subventionner? Parce que ça coûte déjà une fortune dans plusieurs de ces résidences, là, privées, pour des gens autonomes ou des gens qui, malheureusement, sont en perte d'autonomie. Alors, c'est sûr qu'il y a une inquiétude de voir exactement le public venir chercher des employés encore plus dans le secteur privé. Inquiétude, disons, qui est assez légitime dans les circonstances. L'autre chose aussi, ce matin, il y a une série d'histoires concernant toujours les centres de soins de longue durée. Le rapport de l'armée. L'armée est venue confirmer ce que beaucoup d'employés du réseau nous ont dit depuis le début sur le manque de matériel, sur le fait qu'il y a eu des vols d'équipements, sur des gens qui ont été contaminés parce que, visiblement, ils n'ont pas été capables de suivre à la lettre les protocoles, surtout donc au début, et ce dont on parle, le va-et-vient continuel dans les centres. Tu n'as pas assez de personnel, tu te promènes du chaud au froid, et ça, les soldats l'ont inscrit dans le rapport, mais disons qu'on le savait pas mal. Et comment on va se préparer pour cette deuxième vague que personne ne souhaite, mais que presque tout le monde, je dirais, anticipe un peu, c'est d'avoir plus de personnel. Il semble qu'on n'a pas un enjeu d'équipement cette fois-ci, mais est-ce qu'on sera capable là, d'avoir assez de bras? Puis qu'est-ce que les gens vont pouvoir prendre leurs vacances? Moi, je peux vous dire là, que terrain, là, malgré le discours officiel, encore une fois, où la ministre dit ben tout le monde aura droit à deux semaines de vacances, c'est pas si clair que ça partout. Et dans le choix des dates, est-ce que c'est... Il y a quelqu'un qui m'a écrit, entre autres, là, qui a le droit à des blocs de 3 jours. Tu sais, tu peux pas te reposer en 3 jours puis recommencer à travailler, puis un autre 3 jours. Puis... Alors, c'est pas aussi clair que ça. Bon, maintenant, parlons des vacances un peu, du camping et également de la location de chalet. La ministre Caroline Proulx sera avec nous tantôt. Qu'est-ce qu'on a annoncé? Bien, d'abord, on va pouvoir aller au camping. Si vous avez déjà, par exemple, vos réservations, vous attendiez, bon, alors, fait partie de votre plan. D'autant plus que les vacances à l'extérieur du Québec, on oublie ça. Frontières fermées, puis encore pour combien de temps? Puis si tu sors, as-tu envie d'être en quarantaine? Les vols vers les différentes destinations ne reprennent pas. Donc, les gens ont comme peu de choix, là, c'est-à-dire, où tu restes chez vous, la Casa del Patio, là, l'image qu'on présente beaucoup, où tu vas en région. Alors, prenons le cas de Montréal, ou de la périphérie de Montréal, il y a des gens qui vont aller camper, puis il y a des gens qui veulent aller, par exemple, louer un chalet pour 2 semaines, 3 semaines, 1 mois. Quelles sont les règles? Bien, les règles, elles sont celles de la santé publique, c'est-à-dire que si vous êtes une famille, habitant sous le même toit, il n'y a pas de problème. Vous pouvez aller au chalet, vous pouvez aller sur un espace de camping. Par contre, si des membres de la famille qui ne vivent pas avec vous veulent venir passer du temps au camping ou encore au chalet, non. Ça, c'est la directive de santé publique. ils peuvent passer du temps à l'extérieur, le fameux 2 mètres, mais ils ne peuvent pas passer le week-end avec vous. Vous ne pouvez pas inviter des amis à venir passer une fin de semaine au chalet. Exemple. Pour l'instant, pas dire que ça ne changera pas, mais ça, c'est pour le moment. Ça veut dire aussi, dans le cas du camping, des mesures concernant les équipements sanitaires. La piscine, bon, ça va finir par ouvrir les piscines, là. L'eau, c'est, ça va faire du bien, c'est parfait. Il faut juste respecter encore là le 2 mètres. Puis c'est pas tant dans l'eau qui souvent le problème, mais autour de la piscine. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu ces images, c'est repris ce matin dans le Nouvelliste. Il y a un endroit qui s'appelle la Petite Floride. C'est à Bécancour. Et c'est une plage. Et là, ils ont fermé la plage parce que là, ça a donné lieu à des rassemblements. Tu sais, c'est chaud, c'est humide. Les gens font le déconfinement. Et faut voir les images. Les gens qui étaient les uns par-dessus les autres. Le monde est fou raide. Nous avons une canicule pendant que tous les parcs sont fermés à Trois-Rivières. Tous les axes sont alignés pour avoir beaucoup, beaucoup de personnes à la Petite Floride. Et là, on a vu des gens qui étaient donc sur la plage, qui ne respectaient pas les 2 mètres en question, des gens qui avaient un comportement donc délinquant, qui mettaient des cochonneries partout. C'était franchement dégueulasse. Tout ça se passe dans cet endroit bucolique qui est la Petite Floride, dans le secteur de Bécancour, fait que les autorités ont décidé de fermer. Alors, donc, il va falloir prendre ces mesures-là durant l'été. Puis là, c'est de voir les mesures, genre, si tu te... Mettons que tu loues un chalet, là, ben, comme pour le camping, tu fais ton épicerie avant, chez vous, dans ton coin. Tu pars, tu t'en vas au chalet ou encore au camping et surtout, t'arrêtes pas à l'épicerie locale. J'appelle ça le concept de Bromont. Tu sais, quand le maire de Bromont disait « Je veux pas vous voir » dans nos supermarchés, là, puis dans nos commerces locaux, là, fait que, fais le plein d'essence, mais passe vite. Puis va-t'en à ton chalet. Les déplacements entre régions sont autorisés, mais idéalement, si tu peux pas vraiment t'arrêter, je sais pas, luncher, parce que les restaurants, c'est du take-out, si tu peux pas t'arrêter quelque part parce qu'ils veulent pas non plus que t'arrêtes, je sais pas, moi, faire les courses, mettons, tu dis, ben, partir de Montréal, puis j'arrêterai une épicerie de Romandeville, puis après ça, j'irai en Mauricie. Non, 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 non. Tu peux pas faire ça. Alors, c'est une série d'ajustements et de contraintes que vous allez devoir vivre comme ça. C'est ce qu'on appelle le concept du tourisme, mais pas loin. Vous ne serez pas dépaysé. Puis les gens des régions plus éloignées, c'est qu'ils ont tellement peur que les Montréalais débarquent, puis on pense qu'ils ne sont pas nombreux non plus à venir nous voir. Mais tout ça pour objet de les rassurer. D'ailleurs, Régis Labeaume, dans une entrevue hier à Québec, a dit, là, il va falloir qu'on comprenne que il y a un travail de rapprochement à faire entre Montréal et les régions. Là. Quand ça va mal à Montréal, ça va mal au Québec. Et la crise a un peu, on le voit, là, exacerbé les tensions entre Montréal et le reste du Québec. T'sais, on ne veut pas vous voir, venez pas. Combien de cas de dénonciation on a vu de gens, par exemple, qui allaient à leur chalet ou à leur résidence pendant la période estivale. On va retrouver Marc tout de suite, les points chauds de ce début de journée. Bon, les fameuses pistes cyclables qu'on a implantées à la vapeur dans le cadre de la pandémie, des pistes cyclables qu'on disait temporaires sur Christophe Colomb, sur Rachel, extrêmement controversé. Pourquoi? Bien, parce que ça n'a pas de sens, la façon dont ça a été fait. Je vais entendre la mairesse de Montréal, Valérie Plante, qui dit que tout ça, là, c'était pas improvisé.
Je tiens à dire qu'il n'y a pas d'improvisation ici dans la mesure où la santé publique est derrière nous, considère qu'on fait la bonne chose, qu'à Montréal, la distanciation, c'est difficile, que c'est une bonne façon également d'encourager les artères commerciales locales. Et pour tous les plans, tous les tracés, tous les plans ont été approuvés par le Centre de coordination des mesures d'urgence avec des critères de sécurité objectifs.
Bien, si c'est le cas, il y a quelqu'un qui l'a échappé, là, dans les critères de sécurité. On n'a pas dû tenir compte des gens qui ont une difficulté de se déplacer. On n'a pas dû prévoir les différents changements de ligne. J'ai parlé avec M. Caldwell, tantôt le responsable à la ville, là. J'ai l'impression que nous sommes sous surveillance actuellement et qu'ils vont noter tout ce que je vais dire pour être en mesure de se préparer pour les questions. C'est C'est assez irrégulier. Mais en tout cas, je vais vous dire franchement ce que je pense. Puis à la lumière des témoignages que je reçois, puis de mes propres observations, là, t'sais, on a comme multiplié les pistes cyclables en nuisant aux piétons, en nuisant au commerce. Je parle même pas des autos, là. Ça va de soi que tu vas perturber la circulation automobile. Puis là, tu dis, ben, il y en a beaucoup moins, fait que c'est moins grave. Mais là, il commence à en avoir un petit peu plus. Et donc, des gens qui ont vu leur parcours d'autobus être modifié, impliquant des déplacements. Puis c'est pas vrai que tu encourages le commerce local. Parce que le commerce local, il ne vit pas que du voisin d'à côté, là. Il y a beaucoup de commerces qui comptent sur des gens qui viennent, mais, parle pas de la banlieue, là, mais qui peuvent venir d'un autre arrondissement. Et c'est pas tout le monde qui va faire des courses en vélo. Alors, pas certain que c'était super objectif. Pas certain, moi, qu'il n'y avait pas déjà là, appelons ça, un petit fond d'idéologie. Puis là, on a décidé. Puis là, je comprends qu'il faut garder le 2 mètres. Je comprends devant les commerces. Mais comment on m'explique que devant du résidentiel, on a traité l'aménagement urbain de la même façon que devant un commerce? C'est devant Jean Coutu, ça va. C'est vrai qu'il peut y avoir du débordement. Mais est-ce qu'on avait besoin d'ajouter toutes ces pistes cyclables-là alors qu'il y en a dans les rues transversales? C'est bien compliqué pour un cycliste de ne pas être toujours dans un corridor droit, d'aller sur une rue où il y a déjà un aménagement. Autour de Christophe Colomb, il y en a des pistes cyclables. Alors là, on nous dit qu'on va s'ajuster. On ne sait pas quelles sont les modifications. Puis quand on dit que c'était hyper planifié, là, peut-être qu'ils en ont... Ils ont oublié d'en parler aux citoyens. Tu sais, quand tu arrives chez vous, puis il y a des interdits de stationnement, puis là, whoop, tout d'un coup, les travaux se font là, durant le week-end. Pis des exemples, je pourrais vous en nommer quand même beaucoup sur Christophe Colomb, sur Rachel, hier, quand on parlait avec cet auditeur qui dit, moi, j'ai pas, c'est pas une question d'auto, là. Moi, je me déplace, mais quand je vais faire mes courses, ça me tente pas de marcher un kilomètre avec mes sacs. Je suis pas un candidat pour l'Ironman. Je suis un citoyen du plateau, bien ordinaire, bien correct. Pourquoi vous m'écœurez? C'est un peu ça qu'il dit. Pourquoi vous m'écœurez? Vous l'écœurez, les automobilistes, les gens d'ailleurs, correct? Mais moi, là, j'habite là. Pourquoi vous m'écœurez? Vous voulez pas que je prenne l'autobus? Vous voulez que je reste chez nous, c'est tout ça? Donc, c'est pas fort, en tout cas, comme gestion. Puis là, hier, ils ont annoncé, pour les périodes de canicule, l'implantation... de certaines mesures, notamment pour permettre aux gens de se rafraîchir. Bon, il y a d'autres nouvelles ce matin. D'abord, parlons de l'héritière de Huawei, Meng Wanzhou, qui a perdu en cours. On sait que, si on résume, elle est accusée par les États-Unis d'avoir contrevenu à la loi et d'avoir eu des échanges d'affaires avec l'Iran. Elle est arrivée en transit au Canada et là, les Américains ont dit, on l'a vu, aux États-Unis. On demande son extradition. La cause a été entendue. La réponse est tombée hier. Elle est actuellement, vous le savez, à Vancouver, gardée en résidence avec un appareil, un bracelet là, de surveillance électronique, flanquée des gardes du corps, si vous avez vu les images. Donc, elle est allée attendre le verdict au palais de justice en Colombie-Britannique. On a dit, ben non, madame. La requête américaine a un fond et on va vous extrader. Appel, c'est sûr. La décision finale politique appartient au ministre de la Justice du fédéral, M. Lametti. Lui peut décider de renverser ça et de maintenir la présence au Canada de Meng Wanzhou et, ultimement, lui permettre de retourner en Chine. Alors, on ne sait pas ce qu'il va faire. Historiquement, quand une demande d'extradition venant des États-Unis, je regardais les pourcentages ce matin, là, c'est 90-95%, il n'y a pas de contestation. Et la décision qui est rendue par le tribunal est celle qui est exécutée. Est-ce qu'on va faire un cas d'exception? Parce qu'on est dans un contexte de tension avec la Chine, avec deux Canadiens qui sont détenus. Deux Canadiens qui ont été arrêtés supposément pour des histoires d'espionnage. Mais on connaît la mentalité du gouvernement chinois. Alors, on ne sait pas exactement dans quelles conditions ils sont détenus, là. En tout cas, c'est moins confortable que l'héritière à Vancouver. Et là, la Chine a monté le ton. Parce que la Chine résonne en fonction de ses principes. Et quand le Canada dit ben, « la justice est indépendante », la Chine ne l'accepte pas puis dit « non, non, arrêtez de niaiser, là, puis on veut revoir Meng Wanzhou ». Alors, est-ce que ça suppose une escalade avec le Canada? Est-ce que politiquement, le ministre Lametti va dire « OK, on la laisse partir pour la Chine », puis là, ça va provoquer la colère des Américains? Là, tu as un jugement qui te dit « retourne-la aux États-Unis ». Donc, est-ce que tu vas faire ça? Ça va être intéressant quand même à suivre. Autre dossier aussi intéressant, je vous en ai parlé la semaine dernière, c'était dans la presse, cette histoire-là. Ce policier de la Sûreté du Québec qui était à l'UPAC, Roberto Capone, qui a décidé d'aller voir l'avocat de Tony Accurso pour y dire « le comportement de certains policiers est tout à fait inacceptable ». Alors, cet enquêteur de police, on lit ça dans la presse de ce matin, a livré un témoignage en faveur de Tony Accurso lundi en dénonçant ce qu'il considère comme un manque de fair play de la part des autorités envers celui, et je cite, qui était considéré comme un trophée pour l'UPAC. Donc, M. Capone dit que entre les deux procès, on pense que le jury était contaminé puis on voulait savoir si il y avait une influence extérieure, donc il y a eu enquête, et le procès avait avorté. On préparait le deuxième procès. Sauf que les policiers en ont profité pour tester des éléments de preuve. Le croyez-vous, Tony Accurso? Pensez-vous qu'il est crédible? Qu'est-ce que vous pensez des arguments de la couronne? Et là, la prétention de Tony Accurso, c'est de dire que c'est pas acceptable, que la couronne, c'est comme donner un avantage. Alors, lui, Capone a décidé, et quand même, c'est spectaculaire, là. C'était un gars qui travaillait à l'UPAC, c'était un policier d'expérience. Il s'est dit, mais pourquoi il a fait ça, là? Officiellement, il dit qu'il trouvait que c'était une pratique inacceptable, puis que c'était pas endurable de voir l'UPAC se comporter comme ça, puis que lui, c'est le genre, moi, là, quand ça ne fait pas mon affaire, je le dis. Puis avec mes boss, c'était comme ça. Puis là, il se sent un peu intimidé, il a même porté plainte, parce que c'est sûr qu'il y a une enquête à la Sûreté du Québec le concernant. Puis les gens ne comprennent pas trop ce qui est arrivé, là. Soudainement, il a décidé, lui, qui traversait, parce que considère qu'Accurso est traité injustement par le système, en particulier par les policiers. Et puis un mot sur cette histoire aux États-Unis, dont on va reparler avec Richard Châteauvert. C'est un Noir qui a maille à partir avec la police. De ce qu'on comprend, là, il résiste à une arrestation. Et là, tu as un policier qui l'immobilise au sol. Policier blanc, c'est à Minneapolis. C'est une ville qui a une série d'incidents raciaux. Le chef de police est Noir. Lui-même a déjà porté plainte pour racisme au début de sa carrière. Donc, le gars est au sol. Ce que vous voyez sur ces images là, qui font le tour du monde, il explique qu'il a de la misère à respirer, qu'il est en train d'étouffer. Puis on l'a transféré à l'hôpital et il est décédé. Là, tu te dis, mais comment ça se fait que le policier, puis il était menotté, là, pourquoi les trois autres policiers qui étaient là ne sont pas intervenus? Il n'était pas là, armé en train de tirer sa police. Là. Ce gars-là était immobilisé au sol. Et ça rappelle la même chose, cet autre Noir à New York qui a été pris par le cou puis qui est en train de suffoquer puis qui s'est amené, vous le savez, un soulèvement. Et là, c'est pareil. Depuis 48 heures, il y a des confrontations. Ça a encore dégénéré. Hier soir, gaz lacrymogène. Et c'est une ville, Minneapolis, qui a un triste bilan au chapitre des relations raciales. D'ailleurs, le chef de police qui a été nommé, le premier mandat qui s'est donné, c'est de rétablir les ponts avec la communauté. Les quatre policiers ont été congédiés et le FBI, la police fédérale, va donc mener une enquête. 6h23. La 40, monsieur.